Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchige. Dans Grande Interview aujourd'hui, Jean-Désiré Kanyama reçoit Constantin Nonolutula, ancien conseiller spécial en matière de sécurité de feu le président Zé Laurent-Désiré Kabila. Il s'exprime sur l'assassinat de ce dernier, leur incarcération pendant 20 ans à la prison de Makala et leur libération. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Constantin Nonolutula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est le moral qui est le vôtre aujourd'hui, quelques mois après votre libération?
Il y a deux sens dans mon moral. Du point de vue moral, comme tel, spiritus sensu, c'est au zénith. Parce que je suis chrétien, je crois à Jésus-Christ, je crois à la vérité absolue que la Bible. Moral du point de vue matériel, existence, un peu bas. Parce que nous sommes là depuis 8 mois, depuis que son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous a libérés. Nous sommes là 8 mois, nous végétons, c'est en tout court, sans mouvement, sans être utilisé. Moi, je suis naturellement un homme actif, par définition. Lorsque vous regardez mon passé, moi j'étais chercheur au département d'études politiques et juridiques de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. À ce moment-là, nous étions toujours actifs. Je travaillais, on faisait des recherches, on faisait des publications, on était actifs.
C'est dire aujourd'hui que vous n'avez pas des rancœurs ou des rancunes envers ceux que nous pouvons qualifier de vos anciens bourreaux?
Pas du tout alors. De ce côté-là, pas du tout. Au contraire même, pendant mes 20 ans d'emprisonnement à la prison centrale de Makala, j'ai continué à prier pour tout le monde. Quand même l'ex-président, actuellement sénateur Joseph Kabila, était président de la République, j'ai prié pour lui. J'ai continué à prier même pour le président de la République actuel. Je ne peux jamais garder de la rancune dans mon cœur. Sinon, mes prières ne passeront pas.
Alors, dans l'ensemble, les autres co-détenus avec vous dans le dossier de la mort de Laurent Désiré Kabila, ils sont-ils en pleine forme aussi?
Bon, c'est relatif comme réponse. Ceux qui me côtoient, avec lesquels nous sommes en communication, quasi quotidiennement, sont en forme. Mais d'autres, il y en a d'autres qui sont malades aussi, parce qu'il y a plusieurs causes dans tout cela. Il y a plusieurs raisons qui font que ces gens connaissent un certain effort, mais permanent, à cause des statu quo hantés de notre situation.
Vous avez évoqué le mot attentisme. Ça veut dire que vous avez perdu espoir, vous continuez à attendre. Vous attendez quoi?
Mais nous attendons d'être utilisés par la République. Nous sommes à la disposition de la République, du président de la République, pour participer à l'œuvre de la reconstruction nationale, à laquelle le président de la République donne priorité. Alors, lorsque nous sommes inutilisés, nous sommes là dans l'attente, parfois sans espérance, manque de communication, manque de lumière sur notre démarche, comment voulez-vous que les gens puissent se sentir à l'aise?
Non. Mais est-ce qu'il y a eu un projet ou un programme de reclassement? Vous étiez quand même nombreux, les uns dans les renseignements, les autres dans l'armée, les autres dans la police. Est-ce qu'il y a eu un plan, un programme qui a été fait pour que vous soyez reclassés?
Par le gouvernement, vous voulez dire? Parce que nous ne pouvons pas établir un programme quelconque. Nous connaissons nos compétences respectives. Nous connaissons les fonctions, les métiers que les uns et les autres exercent. Et nous sommes à la disposition du président de la République. Nous n'avons pas encore été approchés de façon claire pour voir quel est notre état spirituel, quel est notre état physique, quel est notre état intellectuel, même mental et physique. Mais j'ai des meilleurs militaires, j'ai des meilleurs agents de l'ANR qui exerçaient là, des analystes chevronnés. Moi-même, je suis conseiller spécial du chef de l'État. J'ai été formé par des juifs. Ça ne date pas d'aujourd'hui, indépendamment de mes études universitaires. Bon, nous sommes là.
Vous êtes quand même en contact avec quelques autorités au sommet de l'État?
Il y a eu deux démarches parallèles qui se faisaient. D'un autre côté, il y avait un groupe dirigé par Pascal Marigané qui partait du côté politique. Ce groupe a été reçu par le feu M. Kitenge Yesu, représentant personnel du président de la République. Je pense que c'est à cause de ses ennuis de santé que ça a piétiné là-dessus. Là, c'est d'un autre côté. Donc, vous voyez que les démarches sont faites. De mon côté, moi, je suis du côté de mon successeur, qui est M. François Béat, qui est très gentil, très compréhensif, qui se met à ma disposition, qui m'écoute et qui répond parfois à mes petits désiderata. De ce côté-là, j'ai la ferme conviction que le président de la République peut ou a été déjà été saisi de ce côté-là.
Vous ne le flattez pas pour qu'il puisse être sensible à votre préoccupation? Vous êtes rassuré de ce que vous dites?
Vous me voyez, moi, avec une tête d'un flatteur, des frontières de manche. Jamais, 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 je vous dis que c'est la vérité. M. Béat est très, très bien. Il est ouvert, non seulement pour moi, pour tout le monde, même pour toute catégorie des gens qui sont dans le besoin, par exemple, de ceci ou de cela. Pas matériel, mais d'un besoin de pouvoir s'activer dans la vie, servir la République, il est là. Il est ouvert. Non, moi je ne suis jamais flatteur. Tout sauf ça.
Si on revenait en arrière, comment personnellement avez-vous accueilli la nouvelle de votre libération après 20 ans d'incarcération?
Après 20 ans exactement. Bon, cette nouvelle m'a causé des sentiments. Un sentiment de surprise parce qu'on ne parlait plus de nous. Tout le monde avait désespéré. Il y a eu des amnisties non appliquées. Il y a eu, qu'est-ce que je veux dire là? Même sur le plan international, il y a des interventions qui n'ont pas été appliquées, etc. Tout le monde ne voulait plus de nous. La presse congolaise également, dont vous êtes membre, avait aussi agité à un moment donné sur la lanterne des autorités. On ne s'en occupait pas. Donc j'avais d'abord ce sentiment de surprise, je ne m'y attendais pas. Et puis la joie de penser que je vais revoir ma famille, je vais reprendre la vie actuelle, ma vie normale, je vais être libre, parce qu'il n'y a rien de plus libre, qui coûte plus cher que la liberté. Je vais te donner quelques exemples. À chaque fois qu'on m'amenait, par exemple, à l'hôpital, par exemple, à Clinique Ngaliema, où j'y allais souvent, j'étais accompagné de 6 militaires qui me gardaient. Il y avait au moins 3 jeeps ou 6 pour m'accompagner là-bas. Donc, je n'étais pas un homme libre. Je ne pouvais même pas, je dis bien, je ne pouvais même pas me communiquer avec ma femme. Même si je la voyais quelque part là, elle m'attendait là pour me rien que pour me dire bonjour, non. On se saluait comme ça, pas de gestes de la main. Un jour, il y a eu un incident. On m'a amené dans un laboratoire où des militaires devaient rester à la porte. Il n'y avait pas d'autres portes, il n'y avait que des murs. Ils ont énervé le médecin. Ils ont dit, non, nous ne restons pas, nous devons entrer avec eux. Ils m'ont vu ni quand on me traitait. Vous voyez des histoires comme ça. Je n'étais nullement libre. Donc j'ai cette joie-là de reprendre ma liberté, de prendre ma liberté de penser, ma liberté intellectuelle, ma liberté morale, ma liberté spirituelle, tout ça. C'est important.
Est-ce que c'est le même sentiment pour d'autres co-détenus dans ce dossier? Autrement dit, est-ce qu'ils aussi n'y croyaient plus?
Je pense que oui, oui. Je pense que oui. On attendait tout simplement qu'on nous amène à l'échafaud. C'est tout simplement nous amener à l'échafaud. On ne s'attendait pas. Surtout la série de condamnés à mort que nous étions. Là, vraiment, nous étions en désespoir.
Donc vous considérez aujourd'hui que vous êtes des revenants?
Oui, nous sommes vraiment vivants, nous sommes actifs, nous avons la certitude. C'est grâce au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. C'est grâce à lui que nous sommes en liberté.
Je demandais plutôt, vous qui étiez condamné à mort, vous vous considérez aujourd'hui comme vous êtes des revenants, des gens qui sont morts et qui sont revenus?
Oui, nous sommes, bon, revenants, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais nous sommes là, nous revivons. Nous les vivons, nous sommes là. Et c'est très important ça pour tout le monde.
Revenons encore en arrière pour parler cette fois-là de votre incarcération. Comment vous avez été arrêté? Qu'est-ce qu'on vous reprochait?
Au fond, lorsque, après l'assassinat du président de la République, j'étais maintenu comme conseiller spécial du chef de l'État d'abord, et je ne me reprochais de rien, absolument de rien. Alors, à ce moment-là, moi, j'attendais que la justice soit faite, qu'on arrête les assassins et les auteurs, les co-auteurs, etc., pour que le jugement passe à bonne et due forme. Mais je ne m'attendais à rien du tout. Alors, moi, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé avec l'ancien président de la République. Nous avons voyagé même aux États-Unis après l'assassinat de son père. Nous étions aux États-Unis. Nous avons fait le premier voyage qu'il ait entrepris dès après son investiture, sa prestation de serment. C'était aller à un voyage américano-européen. On a fait longtemps, on a été en France, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout. Mais j'étais là avec l'ancien président de la République.
Mais au fait, qu'est-ce qu'eux, ils vous ont reproché, ceux qui vous ont arrêté?
On ne m'a jamais rien dit. Lorsqu'on m'a interrogé, je suis allé aux interrogatoires. On ne m'a posé aucune question centrale. On m'a dit tout simplement, vous étiez avec qui? Et puis, comment s'est arrivée la mort du président de la République? Que j'ai dit, mais je suis étonné, ça m'a surpris, c'est arrivé comme ça, brusquement, etc. L'assassinat, vous ne saviez rien, j'ai dit que je ne savais rien. Alors, la question centrale sur eux, il dit que, on a dit que vous étiez au service du président Sassou Nguesso, du Congo Brazzaville. C'est pour cela que vous avez comploté, j'ai dit, mais démontrez-le. Au service du président Sassou Nguesso, bien sûr, le président Sassou Nguesso était pays voisin, un homme de confiance, qui a pas mal d'attaches même en République démocratique du Congo de par sa femme. On partait là-bas, on nous a envoyé de temps en temps plusieurs fois, pour des raisons d'État que je ne peux pas vous révéler ici. Ce sont des relations personnelles entre les chefs d'État et un autre. Voilà.
Et donc, pensez-vous à un règlement de compte?
Sûrement oui. Sûrement oui. Monsieur Constantin Nono Lutula, conseiller spécial du chef de l'État, devrait être écarté et tous les enviés de cette fonction ont comploté. Il y avait aussi une ligue politicienne également qui venait avec le président depuis le maquis qui me trouvait insaisissable. Moi, je faisais mon travail. Je ne pouvais pas accepter qu'on m'amène à manipuler des gens, non. Alors tout ça, il y a eu tout un cercle là qui s'est auréolé autour de moi pour me calomnier, pour me dire ceci. On m'a accusé d'être en espionnage en faveur de services renseignements françaises, tension de la CIA, etc. On parlait de Coq-à-l'âne. On ne m'a jamais signifié quoi que ce soit. Et on m'a dit que demain, ils allaient m'appeler. On n'a pas terminé. On n'est pas arrivé à des questions centrales. Aucune ne m'a été posée parmi ces questions-là. Alors, le lendemain, on ne m'appellera plus. Après, je crois, un mois, j'attends la sentence et je suis condamné à mort. Tout simplement. On n'a même pas terminé de me verbaliser. Je le souligne à double tour. C'est très important. Donc, c'est pour démontrer que c'est un règlement de compte.
Peut-être dans vos fonctions, vous étiez dur, vous étiez méchant envers quelques personnes et qui ont voulu maintenant vous rendre le compte.
Non, il ne s'agit pas de mes subalternes. Tout simplement des candidats à cette fonction essentielle de la République, des conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. C'est une fonction essentielle, fondamentale. Celui qui est conseiller spécial du président de la République est l'homme de confiance du président de la République. Je vais vous livrer un secret que Mouzé me disait. Il l'a répété à Lubumbashi un jour. Il dit, j'arrive le matin, je le salue. Oui, monsieur le conseiller spécial, comment allez-vous? Je dis, ça va, monsieur le président. Il dit, mais vous savez ce que c'est un conseiller spécial? Non, mais simple grand technicien de renseignement du président de la République. Non, le conseiller spécial du chef de l'État est un président bus. Vous voyez l'importance de cette fonction. Alors, comprenez bien que la fonction est très compétitive de tout temps, de tout temps.
Radio Okapi. Grande interview.
Dans Grande interview aujourd'hui, Jean-Désiré Kanyama reçoit Constantin Nono Lutula, ancien conseiller spécial en matière de sécurité de feu le président Mzé Laurent Désiré Kabila. Il s'exprime sur l'assassinat de ce dernier, leur incarcération pendant 20 ans à la prison de Makala et leur libération.
Venons maintenant au procès. Vous l'aviez récusé, bien sûr, avec d'autres instances. Qu'est-ce que vous avez reproché à ces procès?
sa superficialité. Ce sont des choses qui étaient si simples. Je vous dis ici pour preuve qu'on n'a pas terminé de me verbaliser et comment les interrogatoires n'ont pas été faits. Ça, c'est la phase préjudicielle d'une affaire. Comment voulez-vous condamner quelqu'un sans qu'il ait le temps de se défendre? Je ne m'ai pas terminé le procès verbal. Donc, qu'est-ce que je reproche au procès? D'abord, son caractère artificiel, tapageux et politicien. Le président de la République est mort. C'est un problème important. C'est le pays qui est atteint dans son cœur, dans sa profondeur. Il ne faut pas prendre des choses comme ça au hasard pour régler les comptes aux gens. Qu'est-ce qu'on de ce procès jusqu'aujourd'hui? Rien du tout, voyez-vous. C'était là, ils se sont contentés, le président s'en va, quelqu'un d'autre viendra. Il ne faut pas que tel soit là, il ne faut pas que tel soit là, il ne faut pas que Nono soit là, il ne faut pas que l'État soit là, il ne faut pas qu'Edi Kapen soit là, etc. C'est tout simplement ça. Simple règlement de compte pour des appétits individuels.
Est-ce un secret aujourd'hui de savoir qui a tiré sur Laurent Désiré Kabila?
Je ne saurais le dire parce que les enquêtes piétinent jusqu'ici et ils ont piétiné jusqu'aujourd'hui. Vous savez, quand on est conseiller spécial ou administrateur général en chef, nous ne sommes pas une société d'assurance. Tout peut arriver. Nous veillons tout simplement au gré, autour du président de la République, le protéger physiquement et puis prendre des informations. Or, la tourelle physique, c'est une autre fonction, la garde présidentielle. Le président de la République a été assassiné à son domicile. Ce n'est pas le problème de renseignement. Est-ce que nous avions des renseignements? Bon, il y a une partie de l'opinion occidentale qui ne voulait pas du président Kabila Matizar. Une autre partie qui voulait de lui. Tout ça, ce sont des approximations, ce sont des on-dits. Mais je savais que le président de la République était un véritable, Kabila était un véritable orage secoué, un véritable arbre secoué par l'orage. C'est-à-dire que ça venait de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dire qui est l'assassin, je suis incapable de le dire aujourd'hui, parce que les enquêtes n'ont pas été approfondies. La chose nous a surpris, comme ça, comme tout le monde. Comme on a tué Kennedy, comme on a tué le premier ministre israélien. Ce sont des choses qui arrivent. Les services de sécurité ne sont pas une société d'assurance. Mais il faut les renforcer techniquement, renouvellement de leur formation et financièrement pour qu'ils aient tout l'outil nécessaire de communication et de visibilité.
Est-ce que vous estimez qu'il faut approfondir aujourd'hui les enquêtes?
Nous avons été libérés, nous sommes là. Il y a l'opinion qui réclamait la révision du procès à un moment donné. Bon, l'opinion commence à se calmer. On est là, en tout cas, on reste avec sa soif.
Mais il faudra qu'un jour qu'on dise à nos enfants et à nos petits-enfants qui avaient tiré sur Laurent Désiré Kabila.
À ce stade, on ne peut leur dire que c'est lui qu'on présume avoir tué.
C'est qui?
Rachid Mouzène de quelque chose comme ça. Présumé, ce n'est pas établi. Ce n'est pas établi, c'est très complexe.
Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Qu'est-ce que vous demandez au président de la République?
Nous sommes des citoyens républicains. Le président de la République, c'est un homme visionnaire, juste, chrétien. Il nous a libérés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant nous utiliser selon nos compétences, selon le potentiel que chacun de nous renferme. Nous sommes deux groupes principalement. Il y a le groupe militaire. Là, il n'y a que des jeunes gens, militaires, lieutenants, capitaines, ceci, cela qui sont là, disponibles. Malgré les 20 ans que nous avons passés là-bas, ils sont encore jeunes. Ils peuvent être reclassés au sein de l'armée et puis pour les utiliser à bon escient. Quant à la fidélité, ça c'est évident. Je ne peux pas comprendre qu'un parmi nous puisse ne pas être fidèle au président de la République qui nous a libérés. Au moment où nous étions en train de végéter, au moment où nous étions dans les oubliettes, 10 parmi nous sont morts. Qui pensait pour nous libérer si c'était pas le président de la République? Voyez-vous? Mais la fidélité est totale de ce côté-là. Du côté civil, j'ai de meilleurs analystes de l'ANR qui travaillaient, formés avec un niveau universitaire très important. Mais ils sont là pour travailler. En ce qui concerne moi et Georges Letta, nous avons une carrière plane, politique. Le conseil spécial n'a pas d'autre échelon de grade à prendre. C'était le plafond. On appelle ce qu'on appelle, en sciences administratives, les transpositions fonctionnelles. On peut nous donner d'autres fonctions pour que nous puissions continuer à travailler avec le président de la République.
À part les revendications professionnelles, il y a des biens qui étaient perdus. Est-ce qu'on vous a restitué, vous et les autres co-détenus, les biens que vous avez perdus lors de votre arrestation?
À ma connaissance, à ce que me concerne, rien du tout. Qu'est-ce qu'on m'a pris? D'abord, une Mercedes. Deuxièmement, ma maison 6 sur A35, avenue Kabambare, commune de Barumbu. Une grande maison. Lorsque l'ancien ministère public de l'auditorat d'alors, Charles Alamba, nous arrêtait, il prenait toutes nos affaires, même les maisons devenaient à lui. Alors il a placé chez moi, à l'occurrence, parlons de mon cas que je connais mieux, il a placé deux militaires, un colonel retraité et un autre lieutenant. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu, monsieur le conseil spécial a fait le nécessaire. Le auditeur général était là le jour où monsieur le conseil spécial m'avait reçu. Le conseil spécial lui avait demandé d'essayer d'activer cette histoire parce que monsieur Nono a beaucoup d'enfants qui traînent ici dans la rue, qui n'ont pas de logement. Alors, le général Ricaudé avait acquiescé. Mais je suis là, depuis que j'ai été reçu par le conseil spécial au mois de mars, jusqu'à aujourd'hui, le général Collin ne m'a pas fait signe. Je ne connais pas où est-ce qu'on en est. Dans quel pays de droit un homme se voit confisquer son propre bien? Moi, à l'occurrence, ils ont divisé ma maison à deux parties, et puis chacun essaie d'occuper une partie où ils sont même en train de colorer les gens dedans. Vous voyez des bêtises jusqu'ici. Mais je sais que tous, nous avons été l'objet de confiscations irrégulières.
Batata bama mabile de botombola mandokie oto pene tumba eto punda mpone korona biso kogo.
Lors de votre arrestation, il y a eu deux évasions. Et donc, les évadés sont à l'étranger. Aujourd'hui, quel est leur sort? Est-ce qu'ils peuvent revenir sans crainte d'être poursuivis, sans crainte d'être inquiétés?
Mais je voudrais un peu définir un peu qu'est-ce que c'est évasion en droit. Tout prisonnier peut se débrouiller pour s'évader. On les récupère, on les ramène. Il n'y a même pas de sanctions. Ça, c'est d'une manière générale. À ce qui concerne nos amis qui se trouvent à l'étranger, nous avons été amnistiés, hein, par le Parlement de transition sous la présidence de M. Olivier Kamitatou. Et M. Olivier Kamitatou continuait d'ailleurs à sonner les tocsins quant à notre libération dans ses communications. Deuxièmement, nous avons été amnistiés à 2005. Par le Parlement sous Kabila. Mais l'amnistie veut dire quoi? L'amnistie veut dire, peut-être que je ne saurais pas trop expliquer, je mets un exemple A et B. Je le tiens A. A, avant son arrestation, était innocent par rapport au procès qui l'inculpe. Il était innocent. Il fonctionnait. Il travaillait. Le même B, maintenant condamné, il est condamné par la justice militaire, par un arrêt de l'auditorat militaire. Lorsque l'amnistie intervient, efface tout. Tu reviens comme tu étais auparavant. C'est-à-dire que tout est effacé. C'est ça la différence d'une amnistie et d'autres mesures. Voyez-vous? Or, nous en avons bénéficié d'eux. Ils sont partis là-bas à l'extérieur. Pourquoi? C'est parce que les amnisties, les lois parlementaires étaient violées. À deux reprises, on ne l'appliquait pas et chacun devait chercher le voisin moyen susceptible de partir. C'est pour ça qu'ils sont partis. On ne peut parler d'évasion stricto sensu à ce qui concerne des gens qui ont été amnistiés et libérés. Maintenant, ils sont là-bas à cause de ça. On ne peut plus leur reprocher les peines détruites par l'amnistie. On ne peut plus leur reprocher. Ce que nous voulons, parce que nous ne voulons pas de malentendus. Nous avons cherché un avocat qui a écrit au président de la République, nous lui avons adressé une lettre de grâce pour lui demander l'autorisation que ces gens viennent. Normalement, sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, ils devaient revenir. Quand vous n'avez aucun droit de rester en prison, vous n'avez plus le statut de prisonnier, et on vous contraint d'être là, qu'est-ce que vous faites? Le pacha humain, naturellement, je vais chercher à sortir comment? Parce que bon, la loi me libère, les gens me contraignent de rester là-bas, mais je devais partir. C'est dans ce sens qu'ils sont partis.
Deux fois amnistiés, mais pas libérés. Qu'est-ce qui explique cela? C'est dû à quoi, selon vous?
C'est dû à quoi, tout simplement? C'est parce qu'il y a eu les décrets qui ont été rédigés par l'auditorat militaire faisaient deux parts. Nous, les présidents nous libèrent, nous qui sommes là, en prison, et pas les autres. C'est faux, archi faux. Et comme nous, nous avons bénéficié de deux amnisties. Tout a été effacé. Ils pouvaient revenir. Mais pour éviter tout malentendu, nous sommes dans un régime de droit. Nous avons avisé le président de la République pour qu'il daigne leur autoriser, leur donner la grâce pour qu'ils reviennent.
Ça n'a pas été fait sciemment, vous pensez?
Par qui?
Celui qui a rédigé le décret, il ne l'a pas fait sciemment, vous pensez?
Bon, il y a des penchants, c'est sûr. Il y a des penchants. Ce droit que j'ai moi étudié ne me dit pas que quelqu'un, lorsqu'il a bénéficié d'une amnistie, et comme il y a le parallélisme des formes, c'est le même Parlement qui devait maintenant peut-être annuler la première amnistie et faire une autre. Le Parlement ne l'a pas fait, alors qui peut annuler une loi? Non, c'est sciemment fait, c'est tout. Et c'est une erreur juridique.
Mais il faut la corriger.
Non, nous n'avons pas à la corriger. Nous voulons qu'ils rentrent parce qu'ils sont bénéficiaires de deux amnisties comme nous. Il y a eu amnistie, comment voulez-vous qu'il y ait une grâce? Qui sait? Non, mais nous avons été amnistiés ensemble. Il n'y a pas de grâce à faire. Nous avons écrit par nos avocats une lettre gracieuse. Une lettre gracieuse, c'est-à-dire vous adressez à l'autorité hiérarchique, c'est le président de la République, qui n'est pas des ennuis inutiles dus à des règlements de compte. C'est pour cela. La lettre a été déposée à la présidence de la République et nous attendons la suite.
Alors, notre concert RFI a évoqué il y a quelques jours une découverte du dossier de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila dans une résidence privée d'un haut officier ici à Kinshasa. Vous qui avez été condamné dans ce dossier, vous avez quelle appréhension?
Ben, je suis surpris que l'officier en question puisse s'ériger à l'archive du département judiciaire pour classer nos procès. S'il s'agit d'anciens procès, d'anciens jugements, bon. S'il s'agit d'autres éléments que nous ne connaissons pas, là, c'est notre paire de manches, il a tort. Il ne peut pas privatiser le dossier de l'assassinat du président de la République. C'est pas possible. Il a tort. Maintenant, le parquet a diligenté une action, une visite suivie d'une perquisition. On a trouvé ça. Mais maintenant, nous voulons tout simplement demander au ministre de la Justice de bien vouloir doter ce dossier de scellés de la République, le remettre là-bas. Le jour où le ministre de la Justice voudra et pourrait convoquer une conférence de presse au cours de laquelle nos avocats seront là, on va décortiquer le dossier pièce par pièce pour que tout le monde soit rassuré. J'espère que, je sais bien que le ministre de la Justice y pense, le dossier Kabila est terrible, c'est pas une rigolade, c'est une affaire importante de la République.
Parlant de découverte, vous ne pensez pas que ça peut être un montage?
Non, je ne peux rien présumer. Je voudrais tout simplement qu'on révèle les contenus de ce dossier pièce par pièce dans une conférence de presse devant nos avocats et puis qu'on voie si ce sont des assiettes pressées verbaux, ça c'est autre chose, ça importe peu. Mais je me demande comment il s'est érigé à ce vide d'archives du ministère de la Justice. Bon, enfin, je n'ai pas de commentaire à faire. Ce que je veux, c'est la vérité de l'affaire Kabila.
Constantin Onoloutoula, je vous dis merci.
Merci beaucoup. Je remercie le président général de l'OCAPI et tout le personnel. Je te remercie particulièrement également Désiré. L'OCAPI est vraiment mène des enquêtes à bon escient, de façon continue, pour clarifier cette situation. C'est très important. C'est très important parce que c'est un ancien président de la République qui est mort. On ne peut pas laisser ça comme ça à perte et profit. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que Jean-Désiré Kanyama recevait Constantin Onoloutoula, ancien conseiller spécial en matière de sécurité de feu, le président Mzé Laurent-Désiré Kabila. Supervision, Alain Irung Mouchinj, coordination Michel Kifindangoy. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission et bien d'autres numéros de Grande Interview en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite et programme sur la radio de la paix. Au revoir.